Bien, alors, bonsoir. Donc, si vous voulez, on va essayer de réfléchir au petit code propre. Voilà, c'est un vaste programme. Vaste programme, c'est pour ça qu'il faut le découper en petits morceaux, parce qu'autrement, c'est trop énorme. Et donc, alors d'abord, une première information. J'ai reçu un courriel qui annonçait les différentes conférences, et puis il en manquait une. Alors, donc, il y a la dernière ligne qui a sauté. Donc, c'est le 10 février, et donc ce sont les anxiolytiques et le GABA dont on va papoter. Oui, non, sur le papier, oui, mais pas sur le courriel. Voilà, alors deuxièmement, l'idée c'est d'essayer d'avoir une petite idée de l'origine des médicaments, d'abord, d'une façon générale, puis ensuite les médicaments de l'esprit, puis plus précisément une période qui a été assez dure, qu'on appelle la période des thérapies de choc. Voilà. Et ces thérapies de choc, elles ont perduré, elles perdurent encore du reste, bon, un peu atténuées, mais enfin encore que, quoique. Le pic, ça a été les années 1950. L'année 1950. La preuve, c'est qu'il y a eu un congrès de ce qu'on appelle maintenant la psychiatrie qui a eu lieu à Paris, un colloque international, et qui s'intitulait « Les thérapies de choc ». Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne savait pas faire quoi que ce soit envers ce qu'on appelle les maladies de l'esprit, autre que de torturer les patients. Voilà. Donc, c'est cette histoire que je voudrais vous raconter cette séance, et puis la semaine prochaine, une autre histoire, c'est celle de la découverte des neuroleptiques, pour faire simple, c'est-à-dire le travail de deux personnages immenses, c'est-à-dire Henri Laborite d'une part, et puis Jean Delay d'autre part. Voilà. Et puis à partir de là, vous aurez une petite idée de comment on travaille avec les médicaments, c'est-à-dire c'est une succession de hasards. Alors, quand on veut nous programmer la recherche, on peut rigoler doucement, parce que la programmation, ça aboutit à peu près à ce que l'on voit avec la grippe A. À peu près. C'est-à-dire, il y a des stocks, il y a absolument tout, mais ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à engraisser les trusts pharmaceutiques. Voilà, c'est tout. Alors, bien sûr, tout ce que je vous dirais comme vacherie, sur la grippe A, vous pouvez déjà le transposer du côté des psychotropes et vous ne serez pas loin du compte. Bon, et puis si jamais ça ne suffit pas, vous remémorerez un petit peu les petits couplets que j'ai dû faire sur les OGM, je suppose. C'est rigoureusement la même chose, c'est les mêmes groupes chimiques de toute façon. Alors j'en parle d'autant plus facilement que j'ai appartenu à ces groupes. Voilà, j'ai fait comme Rosine Bachelot, mais moi j'ai œuvré que 3 ans de mon existence de jeune chercheur, Aaron Poulenc. Donc ça m'a suffi pour comprendre. Elle, au bout de 15 ans, elle a eu une seule. Donc Rosine Bachelot, elle n'a eu qu'une seule. Obsession, c'est de faire disparaître son curriculum vitae à partir du moment où elle est rentrée au ministère de la Santé. Voilà. Alors bon, ça c'est pour moi qui l'ai trouvé, c'était tout à l'heure, alors bon, si j'y suis, il y a eu une émission sur cette question de la grippe cochonne. Et donc, le rose lui va bien, en un mot, et donc... Voilà, alors donc pour ceux qui ont manqué l'émission, vous allez sur France Inter et puis vous allez trouver tout ça, vous serez édifiés. Bon, ils donnent les chiffres, 2,5 milliards d'euros, je crois, à la plaisanterie pour Peanuts, quoi. Bon, alors, laissons tomber la grippasse pour un petit peu nous préoccuper des médicaments. Comment est-on venu à découvrir les médicaments? C'est une vieille histoire, ça remonte je vais dire, l'aube de l'humanité, pour faire bref, en gros. Et probablement bien avant, tout simplement parce que quand on observe les animaux, eh bien, il y a une multitude de comportements, de rituels chez ces animaux. Alors, je pense aux éléphants, je pense aux grands singes, bien entendu, mais n'importe quel chien et chat sait, hein, quand il est patraque, il va bouffer des petites herbes, et puis ça se régule, quoi, voilà. Et puis, il y a un engouement pour certaines baies, ou pour tout un tas de trucs que les animaux savent, voilà. Mais nous, on est tellement cons qu'on ne le sait pas. Alors, on va consulter, bien sûr. Alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, voilà. Ça, pourquoi, si je m'en moque, c'est tout simplement, c'est qu'on a quand même mis le paquet pour éradiquer tout ce qu'on appelait les remèdes de bonne femme. Voilà. Et donc, bon, depuis les sorcières jusqu'à une date récente, voilà, il fallait surtout abandonner toute la médecine traditionnelle et populaire et autres, quoi. Voilà. Bon, alors, comment cette médecine populaire est-elle apparue? Eh bien, donc, restons avec les humains, Homo sapiens sapiens, qui sort de sa savane, admettons, quoi, hein. Imaginons. Et forcément, la première question que l'homme a à résoudre, c'est quand même de survivre, et donc de manger. C'est tout simple. Et donc, ne connaissant rien, ou étant censé ne rien connaître, autre que ce que les grands singes savent, c'est-à-dire, bon, les bonobos, les chimpanzés, quoi, en gros, pour faire simple, hein, c'est-à-dire nos cousins, là, très proches, et ben, forcément, ils ont essayé de manger ce qu'ils avaient sous la main, quoi. Et donc, ben, sûrement des végétaux, sûrement des racines, sûrement des fruits, sûrement une multitude de choses. Et puis, de temps en temps, ils faisaient une expérience malheureuse. Voilà. Et donc, forcément, il y en a un qui mourait. Alors là, bon, dans le clan, admettons, hein, ils sont une dizaine, bon, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, petit à petit, il dit, ah, mais déjà, on a eu ça il y a 2 ans, je sais pas quoi, grippe espagnole ou... bon, voilà, et donc, forcément, comme l'homme a quand même un peu de mémoire, il y a un certain nombre de personnes qui ont plus de mémoire que d'autres. Et à ce moment, ça veut dire que chaque groupe humain a un petit peu gardé en mémoire les accidents qui se produisaient. Voilà. Et donc, de loin en loin, finalement, il y a un certain savoir empirique qui se met en place, et puis qui est transmis, bien sûr, de génération en génération, puisque, on le sait très bien, des comportements nouveaux, des observations nouvelles, se transmettent de génération en génération, chez les primates, bien entendu, hein, alors là, ça a été publié, il y a une culture qui est transmise, mais on sait aussi que les rats sont aussi très forts, donc tous les mammifères transmettent une multitude de choses, les oiseaux aussi, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait d'accord, eh bien, essayez d'entreprendre des migrations de 6000 kilomètres. Bon, alors, on n'irait pas très loin. Voilà. Eh bien, les oiseaux, eux, y parviennent. Comment? Simplement parce que les anciens leur montrent par où on passe, voilà, on reste pas trop loin des côtes, etc. Et puis, de temps en temps, on fait les relais, puis, etc. Et bien, ça. Et on part à certaines périodes, on revient à d'autres. Voilà. Bon, tous ces paramètres qu'il faut intégrer, eh bien, on a pu démontrer qu'une oie bernache, par exemple, est capable de faire, en faisant l'aller-retour dans les bonnes conditions, elle est capable de le reproduire et puis surtout de le transmettre à sa descendance. Voilà. Donc, ça veut dire que les humains sont probablement quand même assez bien équipés de ce côté-là, et donc toutes les connaissances sont accumulées. Et puis, comme ils sont quand même assez agressifs, ces humains, comme vous pouvez le voir tous les jours, bien entendu, ils se font la guerre, et puis, bon, ils ménagent un certain nombre de personnages. Ces personnages sont un peu de deux ordres encore pour le moment, je ne sais pas comment les appeler, mais je veux dire des chamans, pour faire simple, hein. Voilà, c'est-à-dire ceux qui ont recueilli suffisamment d'informations et qui sont capables de raconter le soir à la veillée. Voilà, alors bien sûr, au cours des luttes, bien sûr, il y a accumulation de plus en plus importante de ces connaissances que les chamans transmettent, finalement, plus ou moins de bon gré. Et peu à peu, bien sûr, allant un peu plus loin, ils font d'autres expériences, et là, des fois, ça se passe bien. Alors, je pense à la découverte de l'Amérique. On a découvert la tomate, les courges, les haricots, et beaucoup de choses. Et puis aussi, pendant qu'on y était, des champignons, ou bien des cactus, mexicanum, là, encore une fois, quoi, hein, bien sûr. Et là, c'est pas vraiment mortel. On veut nous faire croire que c'est mortel, bien sûr, mais ça n'est pas mortel, non, bien sûr. Alors donc, comme c'est pas tout à fait mortel, on les appelle toxiques. Je pense aux champignons hallucinogènes, bien entendu, et d'autres substances qui ont été déclarées prohibées, en quelque sorte. Mais, bien entendu, restons-en à nos chamans. Ces chamans, peu à peu, font des expériences, et des expériences qu'on va appeler plus ou moins mystiques. Et que donc, à ce moment, il y a toute une idéologie qui se forge et qui pense que c'est possible de communiquer avec des esprits, avec l'au-delà, avec tout ce que vous pouvez imaginer, et puis pourquoi pas avec des morts ou je ne sais quoi. Voilà, et donc du coup, rien que en prenant cet ensemble d'éléments qui se déroule pendant des milliers d'années probablement, on voit que le chaman a deux fonctions. D'abord, la fonction de savoir qu'est-ce qui est bon pour se nourrir, et puis même éventuellement pour se soigner. Et puis, il y a une autre dimension qui commence à se dessiner, c'est tout ce qui est de, je sais pas trop, du monde de l'esprit, de pouvoir, en quelque sorte, être un peu mystique. Voilà. Et là, c'est, si on peut dire, l'origine de deux disciplines. L'une que l'on appelle maintenant la médecine, et puis l'autre qu'on appelle, je ne sais pas si c'est la théologie ou la religion, ou je ne sais quoi, enfin bon, Daniel Colson vous en parle plus savamment que moi, puisqu'il est un spécialiste, de ce que j'ai compris. Voilà, alors donc, tous les groupes, et bien entendu, nous en avons les vestiges, voilà, les peuples qu'on dit premiers maintenant, là, enfin ceux qu'on est en train d'exterminer, là, ces quelques jours, ces derniers jours, eux, ils sont encore d'avant l'âge de pierre, hein, pour faire simple, et donc ils ont gardé les coutumes et les connaissances. Voilà. Et donc, si on veut savoir l'origine, comment ça se passait pour l'humanité, on va dans ces civilisations, que ce soit en Amazonie, en Sibérie, ou en Papouasie, ou autre, et bon, alors, maintenant ils sont tous empaillés, à peu près, hein, je crois, comme les grands singes, il reste, pour pouvoir leur piquer les terres, pour pouvoir piquer les substances pharmacologiques qui vont avec, etc. Mais bon, donc, vous comprenez que pendant des milliers d'années, pour ne pas dire plus, peut-être un million d'années, les humains ont accumulé des connaissances, tout azimut, sur le monde qui les entourait pour pouvoir survivre, donc manger bien entendu, en faisant appel donc aux végétaux, mais aussi aux animaux, et puis pendant qu'on y est aussi aux minéraux, voilà, et ça les animaux sont capables de le faire, mais aussi de se soigner lorsqu'on a des troubles, ou bien lorsque l'on a, poussons plus loin, lorsque l'on a des blessures, et avec les guerriers, c'est pas très difficile d'avoir des blessures, puisque les armes sont faites pour ça, justement. Alors, tous ne moururent pas, hein, tous étaient atteints, mais enfin bon. Bien sûr, l'ancêtre des documents médicaux que l'on connaît, c'est un papyrus qu'on appelle le papyrus d'Hébert, et qui donne les recettes. Diagnostic d'une part, c'est-à-dire, bon, si on a reçu un coup de hache sur le côté gauche, bien souvent, tout le côté droit est paralysé, etc. Puis inversement, si c'est à droite, c'est le côté gauche, etc. Qui est cohérent avec ce qu'on connaît des schémas anatomiques. Et puis, lorsque les douleurs sont affreuses, on a trouvé des substances qui permettaient de calmer cette douleur. Et la plupart du temps, c'est le pavot qui est utilisé. C'est-à-dire, on a finalement, peu à peu, collationné une multitude de connaissances sur l'environnement et le fait de survivre au mieux. Alors, passons quelques étapes pour voir celle qui est essentielle dans notre histoire, dans notre culture, nous, c'est la période des Grecs, toujours dans l'Antiquité, mais la période des Grecs, avec cette caractéristique qui est d'avoir établi, je crois, à Athènes, l'agora. Et l'agora, c'est le lieu où tous les hommes libres, disons, peuvent se réunir et parler de tous les sujets qu'ils veulent bien mettre à l'ordre du jour. Alors arrive, de ce qu'on sait, arrive des quatre coins de la Grèce, des charlatans qui disent, ben voilà, moi je soigne telle et telle chose, venez chez moi, je vous soigne gratos, ou je ne sais quoi, enfin bon. Mais comme c'est sur l'agora, l'habitude est prise depuis longtemps, puisque c'est quand même des mathématiciens et des philosophes, ils ont l'habitude de discuter. Et donc, bien entendu, pour tout ce qui touche à la médecine, entre guillemets, si vous voulez, si ça vous gêne, tout ce qui est de la droguerie, ils demandent à voir, quoi. Et avant de pouvoir prendre la purgation ou je ne sais quelle technique médicale, ils discutent de pourquoi, comment et autres. Et donc, à ce moment, ça veut dire que ce qui jusque-là restait secret, là, est obligé de sortir sur la place publique. Et donc, le débat a forcé finalement le secret qui est donc étalé au grand jour pour pouvoir convaincre que finalement chacun est le meilleur médecin possible. Et donc à partir de ce moment-là, c'est démocratisé. Et bien sûr, comme il y a une contradiction, dès qu'il y a un défaut, le lendemain, la personne vient et dit « Dis donc, tu m'as vendu ça, mais c'était pas du tout efficace. » Et elle dit « Ah bon, ben alors peut-être que je me suis trompé, etc. » C'est-à-dire, bon, c'est la discussion. Et à ce moment, c'est vraiment le fondement de la médecine réelle, avec Hippocrate et les autres, quoi. Pas de difficulté pour le comprendre. Alors ensuite, les Grecs étant tellement forts, de notre point de vue, longtemps, on a répété ce qu'ils avaient dit. Et en règle générale, c'était comme le disaient les anciens, je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc, pendant longtemps, on n'a pas tellement avancé dans les remèdes, dans les médicaments. Ce qui a changé un peu les choses, c'est, je crois, alors, si on place, hein, vous vérifierez, hein, puisque il peut y avoir des erreurs, mais je crois le grand choc qui s'est produit, toujours en Occident, hein, puisque je parle de mon point de vue, c'est la période des croisades. Et la période des croisades a amené un choc tout simple, hein, c'est simplement la découverte de l'alambic. Découverte de l'alambic, c'est donc en se frottant aux sarrasins ou je ne sais qui, qu'ils ont donc découvert, que les croisés ont découvert l'alambic, et cet alambic venait non pas de ces sarrasins en question, mais de bien plus auparavant, d'Indiens des Indes, disons. Hein. Je ne sais pas quelle est leur religion, mais enfin bon, des Indiens. Voilà, on a pu démontrer qu'il y avait des machines qui permettaient de distiller bien avant ce que l'on croyait jusqu'à une date assez récente. Donc, bien entendu, une fois qu'on possède la technique de l'alambic, c'est possible de faire des distillations. Et la plus simple des distillations, alors n'importe quel alchimiste est capable de faire ça, c'est de distiller de l'alcool. Alors, mais vraiment, c'est rudimentaire. Tout le monde fait ça avec une cocotte minute, hein, dans les caves. C'est pas du tout compliqué, ça donne un azéotrope à 76% si ma mémoire est bonne. Et c'est un jeu d'enfant d'enlever les têtes et d'enlever les queues, et on a de l'alcool. Et alors, cet alcool, lui, c'est un très bon solvant. Voilà. Et à partir du moment où on possède l'alambic, on possède de l'agneau, hein, et donc de l'alcool, et donc on a la possibilité de faire des solvants. Et faisant des solvants, bien sûr, on a une discipline qui était en plein essor, qu'on appelle l'alchimie, et qui devient progressivement la chimie. Voilà. Et donc, pour revenir sur le médicament, ben, toutes ces herbes folles que les poudres de perlimpinpin qu'on vous vend à cette époque, ben, bien entendu, il y a un certain nombre d'alchimistes qui se convertissent en disant « Mais ça fait beaucoup de volume tout ça, et du poids, et pour envoyer à Venise et puis renvoyer à Lyon, c'est quand même un peu difficile. Si on pouvait compacter les données, ça serait quand même bien. Et bien entendu, l'alcool va permettre d'extraire le principe actif. Voilà. C'est-à-dire, toutes les substances, toutes les plantes qui ont un effet, on recherche quel est le principe actif. Et pour ça, on fait l'extraction. Alors bon, à froid, à chaud, et toutes les techniques que l'on peut utiliser pour arriver à tirer l'essence du végétal. Alors à ce moment, ça vous donne bien sûr des concentrations très fortes, et donc à ce moment, on peut expérimenter, on peut découvrir l'effet dose, donc, et donc à partir de ce moment-là, bon, on est dans l'essor de la chimie, donc ben, c'est, disons, pour fixer les idées, hein, de Lavoisier à Pasteur, quoi, hein, c'est en droite ligne, quoi, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté pour arriver à un monde un peu contemporain. Voilà, alors, une fois qu'on a compris que peu à peu, on a des substances qui deviennent d'une grande efficacité, qui peuvent être testées à grande échelle, qu'on recueille, ben, bien sûr, on va faire des listes de substances. Et à ce moment, ça s'appelle un codex. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais vous donner un codex, un petit morceau de codex, ici je le retrouve, je ne suis pas sûr. Ah non, je ne l'ai peut-être pas en transparent, je vais autrement. Pardon. Ah voilà, mon codex. Un petit bout de codex, hein, c'est pas énorme, mais c'est très éloquent. Alors, bien sûr, lorsqu'on prend le point de vue du médecin, eh bien, il essaye de mettre au point une formule où il a atteint ce qu'on appelle la panacée. Et la panacée, c'est le médicament qui devrait soigner toutes les maladies. Hein, puisque bon, panacée, c'est je ne sais plus quelle déesse de la médecine, hein, qui soigne tout. Bon, ben voilà, alors donc, à force de rajouter tous les ingrédients, on arrive, enfin c'est l'idéal d'arriver à faire la panacée. Alors, bien entendu, cette panacée n'existe pas, hein, c'est comme la pierre philosophale, hein, beaucoup de renoncements à avoir, et donc on a quand même un médicament qui fait office de panacée, c'est-à-dire qui sert presque à tout. Alors, récemment, c'était encore l'aspirine, hein, mais bon, à cette époque, c'est 1895, hein, c'est-à-dire, bon, il y a un siècle, hein, pour faire simple, un siècle et 15 ans, eh bien, le codex donnait la formule de la thériaque. Alors, cette thériaque, T-H-E-R-I-A-Q-E, la thériaque, donc, eh bien, j'ai la composition, et donc, si vous voulez, ben, je vais vous la donner. Alors, vous allez reconnaître beaucoup de choses, je crois. Alors, attaquons. Alors, les chiffres sont donnés en grammes, hein, c'est-à-dire, bon, c'est une production vraiment industrielle. Gingembre, 60 grammes. Iris de Florence, 60. Valériane, 80. Açor aromatique, 30. Rhubarbe, 30. Quintefeuille, 30. Racine d'Astoloche, 10. Racine d'Azarum, 10. Racine de Gentiane, 20. Racine de Môme, 20. Bois d'Aloès, 10. Écorce de cannelle, 100. Squame de cil, 60. Écorce de citron, 60. Poivre long, 120. Poivre noir, 60. Fruits de persil, 30. Fruits d'ami, 20. Fruits de fenouil, 20. Fruits d'anis, 50. Fruits de sésélie, 20. Fruits d'ocus caratum, la carotte, en gros, probablement. Fruits d'ocus, 10. semence d'ers 200, semence de navet 60, semence de cardamone 80, agaric blanc 60, hein, champignon. Hein, bon. Alors ensuite, la suite, hein, toujours, dictame de crête 30, feuille de laurier 30, feuille de sorbium 60, sommité de calement 30, sommité de maroc blanc 30, sommité de pouillot 30, sommité de camaédris 20, de camépitis 20, de millepertuis 20 aussi, sommité de centauré 10, pétales de rose 60, safran 40, fleurs de stoeca, je ne sais pas ce que c'est, 30, opium officinal 120, sucre de réglisse 60, cachou 40, gomme arabique 20, myrrhe 40, oliban 30, pas taliban, hein. Attendez, ils vont venir. Oliban 30, galbanum, voilà, bon, ça c'est toute la faction, hein, c'est tous les parfums là, qui défilent. Bon, donc du coup, si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal, ça c'est bien certain. Opopanax 10, benjoin 20, castoreum 10, midepin 60, terre sigillée 20, sulfate de fer 20 et bitume de Judée 10. Ouais, alors bon, ouais, ça fait des grammes, hein, mais alors bon, ça fait je ne sais pas combien de kilos. Alors ensuite, bien sûr, une fois que vous avez tous ces ingrédients là, vous avez pesé, hein, pilez ensemble toutes ces substances et passez-les au tamis de soie numéro 100 de manière à obtenir une poudre fine. Cette poudre est désignée sous le nom de poudre thériacale. Prenez alors poudre thériacale 1 kg, térébenthine de chiot 50 g, miel blanc 3,5 kg, vin de grenache 250 g. Mettez dans une bassine la térébenthine de chiot, liquéfiez-la, ajoutez-y de la poudre thériacale pour la diviser exactement. D'autre part, faites fondre le miel, versez-le encore chaud et peu à peu dans la bassine pour délayer le premier mélange. Ajoutez par petite quantité le reste de la poudre et le vin qui devra donner à la masse la consistance d'une pâte un peu molle. Quand le tout sera parfaitement mélangé, conservez l'électuaire dans un pot. Après quelques mois, remettez la thériaque dans un mortier et triturez-la de nouveau pour rendre la masse parfaitement homogène. Voilà, alors ça, donc, il y a un peu plus d'un siècle, c'était ce que faisaient les apothicaires, quoi, hein, toute la journée, de faire des formules, selon le codex qui était établi depuis Henri IV, hein, en gros, c'est-à-dire, bon, on ne pouvait pas déroger, c'était comme ça, et puis voilà. Alors, une fois qu'on sait un petit peu comment se sont produits les différents médicaments, alors, je voudrais rentrer dans une autre phase, alors cette fois, c'est donner un petit peu l'idée de comment on traite les gens qui sont malades, mais malades de l'esprit. Alors pour ça, ben, je vous renvoie à Michel Foucault en particulier, qui donne une histoire de la folie et qui raconte que, à peu près à l'époque de Louis XIV, je crois, bon, il y a beaucoup de gens qui sont turbulents et qui sont craints dans la société et que donc bah, les forces de la maréchaussée les ramassent et puis les éloignent des villes. Et puis quand même ils reviennent et donc à un moment on finit par les enfermer. Voilà. Et que quand on regarde de qui il s'agit finalement, bah, il y a deux grandes catégories. Il y a bien sûr la racaille, hein, bon, les gens qui n'arrêtent pas de voler, d'assassiner, de je ne sais quoi. Puis à côté, d'autres qui ne sont pas du tout sur ce registre, mais que progressivement, on va appeler les fous. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont malades mentaux, quoi, en gros, pour faire simple. Voilà. Et que donc, peu à peu, on les enferme, les uns et les autres, dans des bâtiments. Des bâtiments qui ont plusieurs enceintes. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est ce qu'on va donner comme des prisons, avec des murailles infranchissables, ou bien l'autre versant, même si au début on ne fait pas la distinction, peu à peu on commence à quand même faire cette distinction, à côté des prisons, on a ce qu'on appelle des asiles. Voilà. Et donc, là, il faut en profiter, puisque ça se voit encore un peu à Lyon. Vous avez deux types d'asiles, le Vinatier d'une part, et puis Saint-Jean-de-Dieu d'autre part. Et donc, si vous regardez bien la structure, les vestiges qui restent, hein, vous avez un grand mur d'enceinte avec un grand portail. Dans ce mur d'enceinte, il y a une ferme, et puis il y a une multitude de pavillons. Et puis les pavillons eux-mêmes sont aussi cadenassés, enfin faciles à fermer, et se spécialisent de plus en plus. Voilà. Donc en gros, on va dire que peu à peu, les populations qui sont, je ne sais pas comment les qualifier, qui sont dérangeantes pour le commerce ou les activités, eh bien sont enfermées. C'est ce que Michel Foucault appelle le grand renfermement. Et puis, progressivement, se distinguent quand même les antisociaux, je ne sais pas comment on les appelait, et puis, d'autre part, ce que l'on appelle les fous. Et les fous, bien entendu, c'est une époque qui est d'une grande dureté, comme vous savez, et on ne sait pas quoi faire pour les soigner, en gros. Hein, et donc, n'importe quelle autorité médicale, peut-être de bonne foi, fait des expériences, en gros. Voilà, et ces expériences sont toujours quand même d'une difficulté à supporter, c'est incroyable. Enfin, tous les échos qu'on en a, c'est épouvantable. Ça peut aller jusqu'à la castration, ou bien on les ligote, on leur met des fers, on essaye de limiter leur mouvement et leur agressivité, et puis même éventuellement leurs cris avec des douches froides et autres. Enfin bon, une multitude de choses. Mais peu à peu, un certain nombre de médecins, quand même, sont touchés par l'humanisme, et je pense en particulier à Pinel, qui dit, mais non, ce sont des malades, ce ne sont pas des gens qui sont possédés par le malin, parce que c'est un petit peu ça l'idée, hein, c'est-à-dire il est fou, donc il est habité par le diable, et donc il faut qu'on le purifie d'une façon ou d'une autre, et que donc purifier, on connaît comment ça se passe, quoi, c'est un petit peu comme l'Inquisition, quoi, faire avouer, c'est un petit peu poser la question, c'est-à-dire en faire des tortures, quoi, pour faire simple. Quoi. Et Pinel, sous l'influence, paraît-il, d'un infirmier, qui est très humain, lui, il lui explique que non, c'est des gens qui sont malades, les uns sont malades du foie, ou du poumon, ou de je ne sais quoi, eux on les soigne, pas forcément de façon efficace, mais en tout cas de façon humaine, et bien pour ceux qui sont dérangés de l'esprit, il faudrait les traiter de la même façon. Et donc, ce mouvement-là commence à prendre de l'essor, où on commence à libérer un peu les fous de toutes les contraintes que l'on leur inflige. En soi. Et donc, peu à peu, on a affaire à des patients qui sont, vous voyez, dans les asiles, et on les appelle justement des aliénés. Donc, c'est des asiles d'aliénés. Aliénés, ça veut dire que ils n'ont pas la responsabilité de leurs actes. C'est de là que ça vient, c'est-à-dire qu'ils sont aliénés par d'autres forces. Alors, au début, on pensait que c'était des forces du mal, et puis progressivement, on comprend que ce sont des forces autres que la raison, et donc on doit les respecter. D'où, à cette époque, une dissociation par rapport à la justice. C'est-à-dire que ce sont des êtres irresponsables. Et donc, à ce moment, ça ne sert à rien de faire un procès et les peines qui vont avec. Et donc, même s'ils sont criminels, ça n'est pas considéré comme un crime. Voilà, bon, vous connaissez ces questions. Alors, à partir de cette époque, dès que ça va mal chez quelqu'un, on l'enferme dans ses asiles, par catégorie. Alors, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les agités, les semi-agités, les démons, qu'on appelle les gâteux à ce moment, puis etc., les idiots et autres. Et se pose bien sûr la question que ce sont des médecins qui sont à la tête des services et que ces médecins essayent d'améliorer les choses. Alors je vous raconterai ce qui s'est passé en 1955, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des neuroleptiques à Vinatier. C'était le marasme, c'est-à-dire on ne savait pas quoi faire. Et donc, c'est cette idée qu'on va utiliser toutes les thérapies possibles et imaginables que je veux vous raconter maintenant. Et donc, c'est un paragraphe sur les thérapies de choc, c'est-à-dire un petit peu comment on considère les patients, ou qu'on appelle les fous, tout simplement, les humains, en somme, et puis on leur applique des traitements que peut-être on pourrait penser être efficaces, qui en fait ne le sont pas tellement et qui ont amené un certain nombre de soucis. Alors, la première thérapie de choc qui est restée célèbre, c'est la malaria-thérapie. C'est-à-dire une thérapie que l'on escompte en injectant le protozoaire responsable de la malaria. Alors, comment ça s'est produit, ça? Comment est venue l'idée? Eh bien, c'est en 1917, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, un médecin qui s'appelle Julius von Jaureg, J-A-U-R-E-2-G, travaille sur les paralysies générales, qu'on appelle les PG en médecine, et qui déclenche, enfin qui entraîne la déchéance du patient, puis sa mort. Voilà, en gros, on va dire que cette paralysie générale, c'est pas très loin d'une maladie qui a un certain nombre de symptômes, une inflammation chronique de l'arachnoïde, c'est-à-dire des membranes, d'une membrane qui entoure le cerveau, qui amène une paralysie, et puis des délires monomaniaques, avec un scénario, avec une grande exaltation, puis des délires maniaques, alors cette fois avec plusieurs idées dominantes, donc là vous reconnaissez la paranoïa actuelle, et puis enfin ça se solde par un état de démence, et qui a assez vite entraîné la mort. Voilà, donc c'est-à-dire une dégradation assez forte. Alors, Julius von Jaureg donc, travaille sur cette maladie, et bien entendu, il pense que la maladie est incurable, comme pour toutes les maladies mentales, mais il remarque quelque chose. Et il remarque que les démences syphilitiques étaient améliorées au cours d'accès de fortes fièvres. Voilà, parce que cette paralysie générale qui entraîne des délires, la plupart du temps, c'est la syphilis qui en est le principe moteur, qui est en tout cas la cause essentielle. Et donc, quand il y a des fièvres chez le patient, il s'aperçoit que le délire cesse. Alors, c'est là qu'il fait une association, qui n'est pas déraisonnable, je crois qu'il est de bonne foi, Julius. Il se dit, mais là, on connaît la malaria, on a des souches que l'on peut détruire par, peut-être pas encore des antibiotiques, mais enfin, on sait contrôler le développement chez ces patients. Si je faisais l'inoculation de la malaria, ça déclencherait des fièvres qui peut-être donneraient une rémission de cette paralysie générale et de ces délires qui l'accompagnent. Voilà. Alors, il a un copain qui lui donne des souches, il dit oh ouais, vas-y, tranquille, tu peux y aller. Et donc, il injecte du sang de sujets qui ont la malaria. Et cette malaria, on sait qu'on peut la juguler avec de la quinine. Et donc, du coup, il dit, je vais déclencher les fièvres de la malaria, ça va peut-être permettre une rémission de cette paralysie générale et de ses délires qui l'accompagnent. Et ensuite, bah, il suffit de régler cette malaria par la quinine. Pas de chance, la souche est résistante à la quinine. Et il a 6 morts dans sa série d'une dizaine, quoi. Et alors là, bien entendu, comme il est médecin et qu'il veut soigner ses patients, c'est un drame pour lui. Voilà. Il renonce à ses traitements, bien sûr, il est désespéré, il veut même plus pratiquer la médecine. Voilà. C'est-à-dire que ça va très loin dans sa dépression. Simplement, par la suite, il a certains de ses élèves qui, eux, veulent se faire un nom, parce que, bon, ce début de siècle, il faut quand même percer. Et donc, ils ont cherché des souches de la malaria qui soient très sensibles à la quinine. Et donc, ils ont réessayé les expérimentations, et ça a marché. Et la paralysie générale n'a pas été guérie, mais il y a eu des rémissions. Alors là, bon, c'est la première fois qu'on imagine une thérapie qui peut être éventuellement mortelle, mais qui peut soulager des patients qui ont une maladie mentale. Voilà, et bien ça lui a valu le prix Nobel. C'était dans son équipe, c'est lui qui a eu le prix Nobel 10 ans plus tard, 1927. Voilà, et donc là, ce qui est dit à cette époque, 1927, eh bien, la malédiction de l'incurabilité était enfin levé pour les maladies mentales. Voilà, c'est-à-dire, il y a au moins un cas, une série de patients qui étaient déclarés fous et qui ont été nettement mieux. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit espoir. Mais enfin, ça n'empêche que c'est une thérapie de choc. Alors, deuxième traitement de choc, dont on parle en 1950 à Paris, eh bien, c'est l'insulinothérapie. Voilà, alors, c'est 1920, hein, c'est-à-dire, bah, une fois qu'on a trouvé un petit truc qui marchait, bien sûr, les compétiteurs se mettent à fantasmer et dire qu'est-ce que je viens pouvoir leur faire pour essayer d'améliorer les choses. Voilà. Et bien là, c'est encore un Allemand, c'est Sakel, S-A-K-E-L, qui soigne des héroïnomanes à Berlin. Alors, le sevrage provoque une surexcitation, et Sakel essaye d'interpréter ce sevrage. Hein, c'est-à-dire, hein, vous connaissez, bon, ils sont en quelque sorte là sous, là aussi, il faut encore un petit peu redonner, vous savez, c'est Freud un petit peu qui a découvert un peu la cocaïne, et puis la morphine, et puis l'héroïne, et Freud l'a essayé, a trouvé que c'était vraiment sympa, quoi, hein, ça lui permettait de carburer, donc il en parle dans ses lettres quand il est à Paris, quoi, c'est-à-dire qu'il shoot finalement à la morphine et à la cocaïne, et puis il a des copains qui deviennent dépendants à la morphine, voilà, et il dit, bah, t'en fais pas mon pauvre vieux, hein, je vais te sortir de là, parce que j'ai un truc qui marche encore mieux, hein, et qui va te faire oublier la morphine, c'est l'héroïne, quoi. Alors là, pas de chance, le père Sigmund s'était planté, quoi. Bon, voilà, alors il y a cette émulation, un petit peu, là, parce que, bon, on vient de découvrir des nouvelles substances, hein, c'est l'essor de la chimie, ça, hein, c'est-à-dire, bon, tous les jours, il y a des nouvelles molécules qui sortent, alors tous les jours, on fait mumuse, quoi. Et là, les médecins les plus prudents, enfin non, les plus fous, expérimentent sur eux, ils expérimentent sur leurs patients. Mais rassurez-vous, hein, les facs sont pleines de demandes de faire des schémas expérimentaux là, dans les labos. Hein, de toute façon, là, j'en ai encore lu une tout à l'heure, hein, c'était pas mal. Hein, c'était recherche homme adulte, consentant. Pour recherche sur le sommeil. Alors, première nuit, nuit blanche finalement, à regarder des films, alors, je ne sais pas si c'est des films mix ou quoi, et, ou bien des puzzles, ou bien je ne sais pas quoi. Et puis deuxième jour, alors passez à l'IRM le matin, et si vous n'êtes pas assez bien rissolé, à la TEP l'après-midi. 3 heures dans la TEP. C'est la tomographie par émission de positons. Pour la modique somme de 210 euros. Bon, c'est-à-dire, bon, vous passez une nuit blanche, puis après, on vous passe toutes les coutures. Voilà, donc, s'il y a des candidats, c'est très facile de se faire de l'argent de poche. Quand j'étais jeune, on allait à la banque de sperme pour se faire de l'argent de poche. Non, on va à l'IRM. On vit une époque formidable. Bon, alors donc, revenons à nos héros, en somme. Bien sûr, une fois que vous êtes accoutumé à une dose suffisamment forte, c'est très vite fait avec l'héroïne, quand vous êtes privé de ces apports extérieurs, votre organisme ne fait plus les encéphalines ad hoc, et du coup, vous avez un manque cruel, c'est-à-dire vous devez rembourser la dette, quoi. Vous avez en quelque sorte émis des subprimes, hein, et donc après, on vient vous piquer votre maison, quoi. C'est ça, quoi. Bon, donc, ça amène beaucoup de difficultés à ces patients. Et donc, Sakel pense que c'est une excitation de la thyroïde et des surrénales, bon, le système endocrinien, hein, pas grand-chose à voir, à vrai dire, hein. Mais bon, il pense que c'est ça. Et il pense qu'une substance antagoniste pourrait abaisser le tonus sympathique, calmer les systèmes endocriniens, atténuer les états d'excitation. Or, dans le même temps, l'insuline vient d'être découverte, et, bien sûr, en 1922, elle guérit le diabète. Alors, il se dit, mais si ça guérit le diabète, peut-être que je pourrais peut-être essayer avec le sevrage, parce que cette insuline a une renommée extraordinaire, quoi, parce que là aussi, là, c'est une maladie, on va dire, physiologique, qui est en gros enrayée par l'insuline, donc il fait l'analogie en disant, bah, si ça se trouve, ça marche, et donc je vais essayer. Donc, Sakel essaye l'insuline, mais à des doses très fortes. Ceci provoque des convulsions qu'il combat à l'aide de barbiturique qui entraîne un coma. Voilà, c'est-à-dire... Non, mais c'est ça, quoi. Hein, c'est-à-dire, on tombe de Carieux en Scylla. Et c'est ça, quoi. C'est-à-dire, ben, on bricole, quoi. Alors, tant qu'on bricole sur un moteur, ça va. Quand on commence à bricoler avec de la nitroglycérine, on se fait péter la gueule. Mais quand on expérimente avec de l'insuline et puis des barbituriques, etc., là, ça se fait sur les patients, et là, à ce moment, on a des problèmes éthiques, quoi, hein, bien sûr. Mais l'éthique, alors on s'en fout, hein, il faut bien préparer Auschwitz, hein, de toute façon, hein, donc, à cette époque. Donc voilà, on en est là, et donc il calme le jeu par un coma avec le barbiturique. Alors, à ce moment, il se dit, bon, c'est pas terrible avec les héroïnomanes. Hein. Bon, donc je vais changer de cible. Et donc, cette fois-là, il recrute des psychotiques. Voilà, donc il applique son traitement de l'insuline aux psychoses en 1933. Oui, hein. Le coma hypoglycémique répété et même les convulsions semblent avoir un effet favorable. C'est-à-dire, c'est pas psychotique, donc subissent des injections d'insuline à tire-larigot, et les convulsions donnent l'impression d'avoir un léger mieux. C'est le coma insulinique ou cure de Sakel, dont le protocole est assez simple, en un mot, hein, c'est-à-dire, bon. Après une injection d'insuline intraveineuse, le glucose est consommé 2 à 3 fois plus vite, le foie est en rupture de stock, les muscles doivent céder leur glucose pour sauvegarder le cerveau. Hein, c'est-à-dire, bon, oui, on a déplacé les équilibres, quoi. Bon, allez, à ce moment, vous avez les convulsions qui se produisent.
Voilà, alors bon, la transpiration est de plus en plus volumineuse, elle inonde tout le corps, la respiration et le rythme cardiaque s'accélèrent, bon, c'est un état de stress, quoi. Les muscles ont perdu leur tenue, c'est ce fibrille. Le cerveau privé de glucose commence à souffrir, provoquant des vertiges, une vision floue, les yeux roulent, les paupières battent, puis c'est la perte de connaissance, le coma. Le patient remue la tête de gauche à droite, il contracte ses muscles de la face avec une crispation des poignets et des mains, une succion des lèvres, un peu comme les nourrissons. Cela dure 1 à 2 heures. Alors on fait avaler du sirop sucré. Ceci entraîne un profond état de régression et un remodelage des fonctions psychologiques. Voilà, alors bon, ben, c'est la cure de Sackiel. Bon, il a échappé au prix Nobel, c'est étonnant, mais enfin bon, il y en a d'autres, hein, ils arrivent. C'est le numéro 3 qui va l'obtenir, je crois, ou le numéro 4. Alors, donc cette histoire de convulsion, on commence à travailler les esprits des aliénistes, hein, puisque les médecins qui travaillent dans les asiles d'aliénés, on les appelle les aliénistes, et puis il faudra attendre pas mal de temps pour qu'il soit neuropsychiatre et puis ensuite psychiatre. C'est la convulsivothérapie. Donc on va systématiser la recherche de ces convulsions. Donc c'est 1929. Là c'est en Hongrie. Un médecin s'appelle Ladislas von Meduna, M-E-D-U-N-A. Et lui il travaille sur les statistiques et il est impressionné par un résultat qui sort comme ça. C'est que l'épilepsie, d'une part, et la schizophrénie, eh bien, ne semblent jamais cohabiter. Voilà. C'est rare de trouver un schizophrène qui soit en même temps épileptique. Voilà. Il dit, mais ça voudrait dire peut-être qu'il y a deux états qui sont contrastés et que donc, c'est intéressant. Alors, bon, tout un tas d'éléments, mais enfin, bon, Donc cet antagonisme lui laisse entendre que les crises d'épilepsie ou bien les convulsions pourraient peut-être guérir la psychose, finalement. Voilà. Alors bon, bah, si c'était vrai, il faut le tenter, il faut l'expérimenter, il faut trancher en un mot, oui ou non, on accepte l'hypothèse. Voilà, bon, bah, alors la question qui se pose, c'est comment on déclenche les convulsions? Alors bon, on connaît l'insuline, mais bon, c'est déjà un petit peu défriché, donc il va prendre autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il prend? Eh bien, il va commencer par ce qui est connu depuis longtemps, hein, c'est le camphre. Voilà, on fait renifler nos psychotiques du camphre, et à ce moment, eh bien, ça déclenche des convulsions. Ça peut déclencher des convulsions, et effectivement, il prend 26 sujets schizophrènes, et il y en a 10 qui vont nettement mieux après des convulsions dues au camphre. Voilà. Bon, alors, bien sûr, bon, le camphre, c'est quand même un petit peu toxique. Alors, bon, il dit, bon, on va prendre autre chose. Et il cherche d'autres substances et il en trouve le métrazole et le cardiazole. Voilà. Et donc, ben, il va publier ses résultats avec un choc, une convulsion au cardiazole et qui marche, en quelque sorte, amène des rémissions dans les délires des schizophrènes. Mais simplement, bon, la crise est quand même d'une brutalité pas possible. Et donc, bon, ça se répand, mais quand même, il y a trop de fractures du crâne. En gros, les vertèbres, bon, alors ça donne du boulot aux ostéopathes, hein, et chiropracteurs, mais enfin, bon, quand même, bon, le traitement est quand même abandonné. Voilà. Alors bon, bah, c'est pas perdu, hein, rassurez-vous. Hein, voilà, nouvelle technique de choc. Alors celle-ci, vous la connaissez tous, mais c'est l'électrochoc. Voilà. Hein, donc, bien sûr, l'électrochoc, on est encore dans cette histoire de convulsion. Quoi, hein. Alors, c'est marrant parce qu'on part avec une paralysie générale et puis on finit par chercher des convulsions qui vont pouvoir peut-être guérir, ou en tout cas calmer le jeu de psychose. Alors bon, c'est une histoire un peu compliquée, mais je vais essayer de vous le condenser. Eh bien, ça, qui dit électrochoc dit un choc par l'électricité. Ça, c'est la première chose. Eh bien, l'électricité est connue depuis belle lurette. Chez les Romains, on connaît l'électricité. Et c'est 45 avant Jésus-Christ, un certain Scribonius, médecin de l'empereur Claude, et bon, un Lyonnais, quoi, hein, finalement, hein, traite les migraines en utilisant le poisson torpille, jusqu'à ce que la partie soit engourdie et que la douleur cesse. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, ça fait partie du monde médical depuis déjà longtemps. Et puis, on saute les années, 1780. Il y a bien quelqu'un que vous connaissez bien dans sa baignoire, c'est Marat. Marat est un médecin. Et ce médecin est intéressé par l'électricité, qui est un petit peu à la mode, si vous voulez, et il passe l'essentiel des conscrits qu'il a sous la main, non pas à la jeune, pas à l'électricité. C'est une manie, hein. Voilà. Eh bien, ça stimule la santé des jeunes recrues, paraît-il. Ben voilà, son mémoire intéresse Benjamin Franklin, pour vous dire quoi. Bon. Bon, on laisse passer un peu de temps, et puis 1937. Eh bien, c'est Bini, donc, alors, on va en Italie, là, hein, c'est un Italien qui s'appelle Bini, comme ça se prononce, B-I-N-I, remarque que le courant électrique peut provoquer des convulsions chez le chien, hein, mais un animal sur deux meurt à cause de la forte stimulation cardiaque. Mais il constate qu'une stimulation temporale n'est pas fatale. Voilà. C'est-à-dire, bon, si on stimule les chiens, eh ben finalement, il suffit de leur mettre deux tampons vers la tempe, et à ce moment, ils ont des convulsions sans que ça soit fatal. Voilà. Ça, c'est une curiosité de laboratoire. Et l'année suivante, un de ses collègues, qui s'appelle Serletti, avec un C, s'intéresse à l'épilepsie. Voilà. Alors, bon, bien sûr, autopsie d'un épileptique, il remarque que la corne d'amone est un petit peu dure, hein, bon, peu importe. Et il se demande si ce durcissement est cause ou conséquence de l'épilepsie. Voilà, c'est-à-dire, bon, voilà, ça n'a rien à voir, mais quand même, il y a des convulsions, et donc, bien sûr. Alors, pour savoir si c'est la cause ou la conséquence, il se dit, ben, si je provoque des convulsions, je vais pouvoir voir si ça durcit ou pas, quoi, en gros. Et donc, il se repose la question de comment on provoque ces convulsions. Et donc, il demande à Bini comment il fait. Et puis, Bini dit, ah, ouais, mais tu sais, c'est pour chien. Je dis, ah, bon, arrête, Brigitte Bardot, là, avec tes bestiaux. On ne peut plus castrer les hommes, maintenant. Bon, enfin. Donc, il essaye de faire ce que Meduna avait fait, voilà, avec le cardiazol et autres. Mais la méthode est tellement terrible que ce n'est pas très adapté. Donc, il reprend les travaux de Bini sur le chien. Bon, il provoque l'épilepsie avec le courant électrique à 125 volts. Et puis, il s'intéresse à tout ce qui touche à l'électricité. Et un beau jour, et il va visiter les abattoirs de Rome, je crois. Et là, alors là, c'est incroyable. On lui explique comment on tue les porcs à ce moment. Et donc, comme les porcs, vous savez, sont très intelligents, ils sentent qu'on va les égorger. Et donc, ils hurlent et tout. Et pour empêcher d'hurler, les Italiens ont mis au point là, ce groupe des abattoirs ont mis au point la technique dérivée du travail de Bini, tout simplement, c'est-à-dire, boum, deux électrodes sur les tempes, tchoum, une décharge électrique, le porc a des convulsions et à ce moment, il lui tranche les jugulaires. Oui, non, mais bon, c'est comme ça qu'on fait Non, maintenant, on a un pistolet, mais ça découle de ça, quoi. On coupe les deux carotides, si vous voulez, l'animal est foudroyé. Voilà, donc ils sont égorgés facilement, et donc Serletti donc regarde attentivement et s'aperçoit que certains porcs ont des crises d'épilepsie, mais que les porcs ne meurent pas, même si le courant passe longtemps. Donc, il dit, bon, on sait bien que l'homme est un porc, finalement, donc... Alors il essaye de faire l'épilepsie chez des humains. Voilà. Et il recueille en plus toutes les histoires des électrocutions. Et là, tous les gens qui ont eu des électrocutions racontent la même chose à peu près. Voilà. Au réveil, les sujets ne se souviennent plus de rien. Il en conclut qu'il faut utiliser l'électricité pour des raisons humanitaires, malgré l'image taboue de la chaise électrique. Et donc, oui, parce qu'à ce moment, bien sûr, aux États-Unis, il y a des exécutions capitales encore aussi, toujours, quoi. Et que donc, du coup, bon, l'électrochoc est tellement associé à la chaise électrique qu'on a de la difficulté à raisonner sainement. Donc, en 1938, il décide de soumettre un schizophrène à l'électrochoc. C'est un schizophrène halluciné, incohérent, indifférent et qui avait été temporairement amélioré par le métrazole de Medouna. Il lui fait subir 11 traitements électriques. La rémission est spectaculaire. C'est bien. Voilà, c'est le premier. Alors, c'est là qu'il donne le nom, électrochoc. En italien, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais toujours est-il que c'est devenu d'une célébrité incroyable, ça fait le tour de la planète. Quoi. Voilà. Et donc, bien entendu, on s'est aperçu que la psychose n'était pas soignée. Par contre, on a dérivé dans les cas qui étaient possibles de traiter avec l'électrochoc, et ce sont les grands mélancoliques qui... avec qui ça marche le mieux, quoi. Voilà. Et donc, bien entendu, la technique perdure et se fait toujours. Simplement, il y a tout un tas de choses qui ont été améliorées. Donc, d'abord, on mesure le courant électrique qui soit compatible avec le bon fonctionnement du cerveau, primo. Et puis, deuxièmement, injection de curare. Et le curare permet à ce moment de paralyser tous les muscles, d'où l'absence de convulsion, d'où l'impossibilité d'avoir les fractures qu'on a jusque-là. Et puis, bon, il y a toute une benzodiazépine et tout un tas de choses qui accompagnent, un cocktail, quoi, en quelque sorte. Et je peux vous dire que j'ai vu, moi, des patients qui venaient supplier mon ami de faire passer des électrochocs. Des gens qui avaient une psychose maniaco-dépressive. Et tous les 6 mois, il revenait à Vinatier pour subir une séance d'électrochoc. Il dit, bon, c'est pas facile à accepter, quoi, de le faire pendant 2 jours. Mais après, j'ai 6 mois presque d'une béatitude par rapport à l'enfer que je vis autrement. Voilà. Alors, tous les 6 mois, il reportait à chaque fois le rendez-vous de 6 mois. Donc voilà, en 1940, donc on utilise le curare. La technique est aussi efficace. Et donc l'agitation ne sert à rien. Donc autant la maîtriser. Maintenant, on réserve l'électrochoc uniquement aux patients atteints de psychose maniaco-dépressive ou de mélancolie. Mais lorsque toutes les autres techniques ont échoué, bien sûr, c'est l'ultime recours. Voilà, c'est-à-dire. Si les antidépresseurs, si la photothérapie, si les sports d'hiver, si les vacances au bord de mer sont complètement inefficaces, les massages, les thalassos, les je sais pas quoi, alors à ce moment, la mort dans l'âme, les médecins veulent bien prescrire cette histoire. Voilà. Donc ça a permis d'être mis au point, mais alors au prix de beaucoup de souffrances, bien entendu. Alors la dernière, ou une des dernières, qu'il faut que je vous explique, c'est de ces thérapies de choc, mais le temps passe, je vois. C'est la lobotomie. Voilà, alors ça, c'est 1936. Voilà. Alors là, on se déplace un peu, c'est au Portugal qu'il faut aller. Et là, le médecin s'appelle Egas Moniz, M-O-N-I-Z. Alors, lui aussi, ils ont tous leur lubie, quoi, hein, en gros, hein, comme vous savez. Et donc, il remarque que certains malades mentaux, obsédés, ont une vie psychique réduite à quelques idées dominantes qui, d'après ce qu'ils pensent, tournent dans la tête. Hein, on le dit, là, tous les jours. Hein. Il broie du noir. Hein, bon, voilà. Et noir, tout de suite, c'est la mélancolie. Hein, c'est... Bon, ça nous vient des Grecs. Hein, c'est notre langage qui véhicule. Alors, cette idée, il dit, ben voilà, il y a un circuit probablement entre les lobes frontaux et puis l'arrière du cerveau. Et que c'est con, parce que ça tourne et que les gens sont malheureux. Ben, si on était plus malin, eh bien, on essayerait de couper les circuits qui permettent de communiquer entre le lobe frontal et puis la suite du cerveau. Voilà. Alors, bon, ben, comme ça, les idées peut-être resteraient dans le lobe frontal et ne passeraient pas à nous emmerder derrière, quoi. Hein. En gros, ça part d'un bon sentiment. Bien sûr, c'est comme le bouclier fiscal, quoi. Hein. Bon, là, on met un écran, puis ça y est, quoi. Alors, effectivement, ni une ni deux, vous voyez un peu comment ça se passe à cette époque, quoi, hein, par rapport à maintenant. Il faut faire des plans expérimentaux, des comités d'éthique local, régional, national, je ne sais pas quoi, montrer patte blanche. Là, à cette époque, là, le toubib, dans son box, se dit, tiens, il y a des idées folles qui tournent, ben, je vais interrompre cette ronde infernal, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait deux trous, et puis il descend des pipettes, il met de l'alcool au niveau de lobe préfrontal. Bon. Alors, bon. Bien entendu, c'est pas très efficace, quoi. Bon, l'alcool tue, mais lentement, quoi. Hein. Bon. Donc, il révise ses classiques, et puis il dit, bon, ben, je fais une fente un peu plus grande, et puis... Je laisse tomber mon scalpel, quoi, voilà, de gauche à droite. Voilà. Et donc, bien entendu, c'est ce qu'on appelle la lobotomie. Donc, lobo, c'est les lobes préfrontaux, c'est-à-dire cette partie-là, c'est-à-dire la partie qui nous rend humains, quoi, en gros. Hein, si vous n'avez plus les lobes préfrontaux, ben, vous êtes encore un mammifère, enfin, vous êtes encore un primate même, hein, mais plus homo sapiens sapiens, quoi. Donc, avec le scalpel, il déconnecte les lobes préfrontaux du reste de l'encéphale, et du coup, ben, il n'y a plus d'idées folles, il n'y a plus d'idées noires, il n'y a plus d'idées du tout, tout simplement. Quoi. Voilà. Voilà. Alors, ça s'appelle la lobotomie. Thomas, je coupe les lobes préfrontaux. Voilà, ben, donc du coup, les gens sont émerveillés. Surtout. Non, mais je veux dire, les gens à Stockholm, hein. Pas à Copenhague, non, à Stockholm, ils n'en peuvent plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils attribuent le prix Nobel. Voilà, c'est vraiment 1936, Moniz a le prix Nobel. Voilà. Alors, bien entendu, après, le scandale éclate, bien sûr, on dit, mais quand même, c'est pas possible d'aller faire des vivisections, quoi. Il faut les tuer avant, quoi. Mais alors, sinon, ça sert à rien. Donc, voilà. Mais c'est 1936, hein, donc forcément, on vit une époque difficile, quoi. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de justifier les lobotomies. Alors, à ce moment, ça quitte l'Europe, l'idée, et pas de peau, c'est une épidémie aux USA qui se répand. Alors, bon, je vous donne les noms, hein, c'est Freeman et Watts, qui reprennent la technique, mais l'appellent psychochirurgie. Alors, à cette époque, vous savez qu'il y a des problèmes d'eugénisme qui se posent depuis une bonne trentaine d'années, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et donc, bien sûr, tous ceux qui sont un peu tordus, un peu, je ne sais quoi. Bon, on leur propose une psychochirurgie pour redresser tout ça. Tchac, un coup de scalpel, c'est fait. Et donc, bon, voilà, c'est épouvantable. Alors, je vous donne juste un exemple. C'est Jean Thuillier qui rapporte le cas d'un paysan normand qui travaille beaucoup et ne s'intéresse qu'à sa ferme. Voilà. Un jour, il rentre et se barricade dans la maison. Il ne veut plus voir son père, lequel est mort depuis longtemps. Voilà. Donc là, le voisinage commence à se dire, bon, il déconne, hein, là, le vieux. Hein. Il est victime d'une psychose hallucinatoire chronique. Dans le champ où il se trouve, il ressent une douleur. Il lève les yeux vers un pommier où il voit son père à califourchon sur une branche qu'il commande et l'invective comme autrefois. Voilà, plus qu'autoritaire, hein, cariâtre et tout. Il subit à ce moment une lobotomie à Sainte-Anne. Quelques jours plus tard, il doit servir de démonstration des effets hallucinolytiques, hein, c'est-à-dire la disparition des hallucinations par cette lobotomie. Alors, le chirurgien prépare l'interview. Bon, alors, bien sûr, le Normand reste mutique. Voilà, bon, il ne veut rien entendre, finalement, il ne dit rien, c'est un taiseux, quoi. Alors, il insiste quand même, ce médecin chirurgien, quoi, sûr de lui, quoi, qui est surtout de bonne foi, probablement. Bon, oui. Tu m'entends ? Ton père, tu ne le vois plus ? Dit-il. Le paysan secoue la tête. Non, docteur, bien sûr, je ne le vois plus, ça c'est sûr. Il fait une pause et rajoute. Mais voyez-vous, je l'entends. Alors, là, à ce moment, tous les internes et les externes et tout sont stupéfaits, quoi, dire, ben, moi, si on a changé simplement d'organe sensoriel, quoi. Bon, il le voyait, maintenant il l'entend. Et alors, le Normand n'a pas perdu le nord, hein, là, à ce moment. Il se décide à rajouter quand même un mot. Il dit, mais docteur, vous ne m'avez pas compris. Je vous ai dit que je l'entends, mais maintenant, ça m'est égal. Voilà, donc, ben voilà, il a, en quelque sorte, il n'est pas guéri, hein, c'est qu'il n'a plus d'idée du tout, quoi. Hein, voilà, donc du coup, bon, il est devant la télé, quoi, hein, ça se passe, bon, ça ou autre chose, on zappe, et puis voilà. Bon, voilà, à peu près. Alors, je sais pas, il faut peut-être qu'on discute, là, parce que... Oui. Bon, voilà, bon, en gros, voilà un petit peu comment ça se passait jusque, dira-t-on, 1952. Et puis, 1952 arrive quand même quelque chose qui va nous réveiller un peu, quoi. Alors, bon, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Là, j'en sais rien, hein, parce que depuis, bien sûr, il n'y a plus de Van Gogh ni d'autres créateurs, quoi. Donc ça pose problème sur ce qui va se passer. Mais voilà. Bon, donc si vous voulez, ben, je veux bien répondre un petit peu aux questions et préciser peut-être des choses ou anticiper. Oui.